Bonjour, ma parole, c'est l'heure de la danse des mots. Et si je vous dis ma parole, c'est que nous sommes lundi et que tout à l'heure, nous retrouverons notre traditionnelle séquence du lundi, ma parole. Mais auparavant, on va aller au café et on va parler beaucoup de langues puisqu'on va aller au Polyglotte Club. Quel club ? Eh ben le club Polyglotte. Bonjour Charlie Dupiot.
Bonjour.
Alors le club Polyglotte, vous connaissez bien, vous en sortez pratiquement. Dites-nous un petit peu de quoi il s'agit.
Alors il s'agit d'un café des langues, en fait, qui se tiennent chaque soir de la semaine dans un café parisien du 14e arrondissement, le D'Enfer Café à D'Enfer-Rochereau. J'y suis allée un mardi, c'était mardi dernier. Et mardi dernier, le thème, c'était international.
Donc, ce qui veut dire qu'il y a un thème.
Voilà, à chaque fois, il y a un thème international, donc plusieurs langues peuvent être parlées. Il était 21h quand je suis arrivée. La soirée commençait. On entendait déjà parler plusieurs langues. Quelques groupes étaient déjà présents, attablés. Et je me suis postée à l'accueil avec un bénévole qui s'occupait d'orienter les arrivants.
Bonjour Dan. Du coup, tu parles quelle langue déjà ?
Alors, un petit peu de tout. Hein. Non, alors, français et puis anglais.
C'est vrai, anglais.
Merci bien.
Je t'en prie.
Donc vous parlez anglais et français, c'est ça ?
Oui.
Ouais, j'aime bien cette initiative de rassembler des gens différents autour de langues étrangères, ouais. Ça permet de progresser mieux qu'à l'école ou à l'université. Hein.
Le principe du Café Polyglotte, ou du moins de cette soirée, c'est une soirée internationale, toute langue, c'est-à-dire que des personnes peuvent à partir de 20h venir dans ce café, prendre un verre et parler une langue étrangère. Du coup, quand les personnes arrivent à l'entrée, il y a une personne qui les accueille, en l'occurrence moi ce soir, et je leur donne une étiquette avec leur prénom ainsi que les langues qu'ils souhaitent parler ou apprendre et pratiquer, ce qui permet de faciliter les échanges et éviter de demander à chaque fois « Quelle langue tu parles ?» Il n'y a pas de gestion de la soirée en tant qu'il n'y a pas de consigne, qu'il n'y a pas de table avec des drapeaux, c'est un placement libre, ce qui permet de switcher entre les langues, d'en parler 5 en 10 minutes si on veut.
En fait, ici, on est vraiment dans un bar assez classique. On a des drapeaux au plafond, des écrans où on voit un match de foot là derrière nous. Et puis, on a plusieurs tables où on a des petits groupes qui se parlent dans différentes langues.
Ça fait très Coupe du Monde comme décoration. Tous les événements de Polyglotte sont rassemblés en un seul et même lieu. Et c'est pour ça qu'on a tous ces drapeaux qui viennent du monde entier.
L'Italie, le Maroc, le Brésil, l'Angleterre, les États-Unis.
L'Europe, tout à fait.
Ça fait beaucoup de couleurs au plafond.
Et ça donne le ton.
Bonsoir, c'est pour le Polyglotte ?
En fait, on est la première fois ici.
Donc je peux avoir ton prénom s'il te plaît ?
Mon prénom c'est Renan.
Est-ce que tu peux me l'appeler ?
R-E-N-A-N.
Ah, ok. Est-ce que tu parles anglais, allemand, espagnol ?
Je parle portugais et français.
Oui, okay. Anglais. Ok. Bem-vindo.
Muito obrigado.
De nada. Donc voilà, il faut juste aller chercher une boisson au bar et ensuite ces conversations libres avec tout le monde.
C'est la première fois que vous venez, du coup,
Renan ?
Oui, c'est
la première fois.
Pourquoi ?
Je suis en train d'étudier le français, en fait. C'est ça.
Il faut que vous trouviez des gens qui parlent français.
Ah oui, c'est ça. Ma priorité, c'est parler le français.
Ça fait combien de temps que vous êtes ici en France ?
Je suis là depuis un an et demi.
Et vous étudiez ici en France ?
Oui, c'est ça. J'ai fait un doctorat en philosophie ici, en français du coup. Comme ma langue maternelle, c'est le portugais, donc il y a la même racine que c'est le latin. Pour moi, je crois que c'est un peu plus facile dans le sens de la racine de la langue. Mais quand même, il y a plusieurs expressions idiomatiques, plusieurs choses que je ne comprends pas trop, et donc c'est un peu difficile dans ce sens.
Et vous dites qu'il y a des expressions qui vous manquent un petit peu ?
Oui, des petites choses, par exemple. Pour moi, il y a les « d'accord ». Et les gens, normalement, parlent « d'ac ». D'ac. Et pour comprendre ça, ça a pris un temps pour savoir que « d'ac », c'est « d'accord ». C'est ça. C'est ce sort d'abréviation, c'est plus difficile de comprendre dans la vie quotidienne.
Vous pensez à d'autres exemples ?
Aujourd'hui même, une amie m'a écrit, je lui ai raconté que je vais faire un voyage. Elle a dit, ah oui, c'est super, c'est cool. et elle a écrit grave avec un une exclamation. Et donc pour moi, j'ai qu'est-ce que ça veut dire, c'est grave, c'est pas grave, peut-être j'ai dit quelque chose que c'est pas très intéressant, qu'est-ce que c'est ça. Mais après j'ai réfléchi un petit peu, c'est, je l'ai compris comme ce qu'elle avait dit. Ah oui, sérieusement, je trouve très cool ces voyages que tu vas faire.
C'est ça, c'est à peu près ça.
Ah oui, merci.
Et vous parliez français avant de venir ici?
J'ai fait un cours au Brésil de français, un cours avec un professeur privé pendant, je crois, un an.
Parce que vous êtes brésilien?
Je suis brésilien.
Et quel plaisir vous trouvez à apprendre une langue, et le français en l'occurrence?
Ah oui, le français pour moi, d'abord, il y a une sonorité très, très agréable. Par exemple, j'adore, c'est un peu ridicule, mais j'adore par exemple les mots comme jardin. Jardin, c'est, ça me semble très, très joli les mots, les sons de mots.
Jardin.
Jardin. Autre mot, c'est chanson. Chanson me plaît beaucoup. Chanson. Les mots chanson en français, la sonorité, c'est, ça me plaît vraiment.
Et alors là, du coup, vous allez essayer de trouver d'autres sonorités qui vous plaisent?
Oui, c'est ça. Je vais essayer de parler avec des gens. Et je suis ouvert aussi à parler le portugais. J'aime bien.
On vient d'avoir une bonne gorgée de ce qu'on peut boire au Polyglotte Club avec cette conversation de ce Portugais qui fait un doctorat en philosophie, conversation qu'il a eue avec vous, Charlie Dupio. Patrick Rousseau, bonjour. Vous êtes professeur d'anglais, vous êtes universitaire et c'est vous qui êtes à l'initiative de ce Polyglotte Club. Vous nous donnez un petit peu les premières impressions que vous avez eues. Comment c'est né tout ça?
Oui, merci Yvan, merci Charlie de me recevoir. Alors, le Polyglot Club est né finalement d'un besoin, d'une idée simple, qui partait du principe que l'apprentissage théorique des langues étrangères, parce qu'à un moment donné, il faut bien s'asseoir, prendre des notes, écrire, essayer de retenir, mais bien entendu, la pratique est au moins aussi importante, hein, si on veut arriver à un moment donné, un certain niveau de maîtrise. Alors, bon, moi, mes études universitaires m'ont permis de essayer de développer tout ceci, d'y réfléchir, de mettre différentes choses en place, faire des tentatives. Et alors, ce Polyglot Club est à la fois un laboratoire où on y fait toutes sortes d'expériences. Hein, vous parliez de mise en bouche et il y a différents parfums et souvent surprenants et intéressants. Mais moi, je suis avant tout entre guillemets polyglotte, c'est-à-dire que je me suis aussi...
Vous êtes polyglotte?
Je me suis essayé.
Alors, qu'est-ce que vous parlez comme langue? Vous parlez l'anglais parce que c'est votre métier?
Je peux vous dire, et alors c'est symptomatique, je peux vous dire une chose, c'est que sur les 12 langues que j'ai étudiées à un moment donné, à différents niveaux, hein, pour moi c'est l'intérêt qui compte, hein, j'en ai oublié sans doute la moitié. Et donc c'est symptomatique parce que ça montre que l'apprentissage n'est pas une chose ni instinctive ni simple, en tout cas ça demande du temps et des efforts, et qu'il est plus facile d'oublier que de retenir. Ça, je pense qu'on a tous fait cette expérience, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je mets l'accent sur la pratique en parallèle avec l'apprentissage théorique, c'est-à-dire, si possible, simultanément. Il faudrait, dès la première leçon, pouvoir la mettre en bouche.
Donc tout ça repose sur la socialité du café, on peut dire. Des gens qui sont très souvent des inconnus les uns pour les autres, se croisent, se rencontrent et décident de parler dans une langue qu'ils partagent, mais qu'ils partagent peu, en fait, puisqu'il y en a en général un qui la parle bien et l'autre qui la parle moins bien.
C'est vrai, c'est le principe, hein. Vous avez mis le doigt sur le principe de ces rencontres, de ces échanges, hein, et c'est le partage. On partage, alors chacun vient avec sa ou ses langues maternelles dans le but d'en apprendre d'autres. Bon, il y a des cas particuliers, il y a des gens qui ne viennent que donner, mais je pense qu'ils en retirent, et ça c'est le deuxième point, un certain bénéfice, si ce n'est au niveau social, puisqu'on a cette convivialité qui permet à chaque participant de se sentir un petit peu comme à la maison, hein, puisqu'on est accueilli, on est adopté dans cette grande et belle communauté. Et donc, ça met tout le monde à l'aise. Et ça, c'est très important.
Concrètement, comment les gens se croisent-ils? Comment est-ce qu'ils se choisissent? Ils ont des signes distinctifs, ils ont une petite étiquette pour dire quelle langue ils pratiquent, quelle est leur langue maternelle, quelles sont les langues dans lesquelles ils sont plus ou moins à l'aise.
C'est ça. Alors, comme Charlie l'a très bien illustré dans son document sonore tout à l'heure, chaque participant est accueilli donc par un hôte ou une hôtesse et reçoit une étiquette, un autocollant avec son prénom et les langues qu'il ou elle souhaite pratiquer ou apprendre, hein, quel que soit le niveau. C'est, encore une fois, c'est l'intérêt qui compte, hein. C'est essentiel, hein, cette étincelle, là, cette motivation intrinsèque. Hein, il faut qu'elle vienne de nous, parce que c'est déjà pas évident et ça prend du temps d'apprendre une langue étrangère. Alors, si en plus il ne s'agit que de motivation externe, hein, extrinsèque, et plus dans la contrainte, autant dire que c'est pas gagné.
Uma canção que não quer dizer nada. Você não fala mesmo português. Um monte de palavra improvisada, cantada. C'est une chanson de moitié de parole. De toute façon, tu ne parles pas français. Alors j'invente un peu, je rafistole. Racole, c'est toi, meu coração, que j'aime, meu bem querer. J'aurais voulu te contar, mais tu vas rien entender. Les mots me font défaut, alors je donne ma langue au chat pour qu'il ronronne. Esquisito, meu bem. Os gestos vão servir pra se falar. A língua a gente usa pra beijar.
Bia, qu'on entend ici dans la danse des mots, Bia qui est la reine de la bossa nouvelle comme de la bossa antique et qui nous ramène donc à ce Polyglot Club que vous avez inventé il y a longtemps, Patrick Rousseau.
Le Polyglot Club a une quinzaine d'années, mais il est toujours aussi jeune.
Comment fait-il?
Et comment...
Un secret de jouvence.
Je vais
parce
vous
que
dire...
moi, il y a 15 ans, j'avais l'air beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. Hein.
Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient de l'importance des langues étrangères, certaines plus que d'autres, avec ces langues.
Alors, est-ce qu'il y a des modes, justement? Est-ce qu'au Polyglot Club, il y a des langues qui, certaines années, viennent sur le devant de la scène plus que d'autres? Est-ce que vous suivez une espèce de baromètre de la mode des langues?
Nous, non. Un petit peu. Alors, de la même façon que les langues naissent, se développent, meurent ou se transforment, hein, comme tout être naturel, hein, dans le domaine minéral, végétal ou animal, la comparaison, d'ailleurs, n'est pas anodine. Le Polyglot Club se développe lui aussi, et il suit un petit peu ce qui se passe, en fait, l'air du temps. Et on a vu, c'est vrai que en une quinzaine d'années, il y a eu une certaine évolution, notamment avec des langues comme le japonais, le coréen, qui est apparu un peu après, et puis le russe, qui j'ai l'impression est encore une langue très importante, et j'ai l'impression qu'elle tend à se développer aussi. Bon, et puis un certain nombre d'autres, hein, l'espéranto est un cas particulier. On a actuellement beaucoup de succès avec la langue des signes. Donc voilà, au fil du temps, mais nous répondons à des besoins. Hein. C'est la fonction, c'est la vocation même du Polyglot Club, à commencer par nos besoins. Mais enfin, je dis nous pour les fondateurs ou les anciens, hein, parce que bon, une langue, hein, ça prend du temps. Mais il y a des nouveaux arrivants qui arrivent donc avec leurs besoins, leurs priorités, et qui nous le font savoir. Et donc nous, on est là pour répondre.
Yeah. In the second date, I saw that it's a girl who's who's not for me, you know? It's not for me.
It's better to be a single man.
Yeah, it's better to find a girl.
Vous parlez d'histoire d'amour, là.
Yeah. Ouais. You want to speak with us?
En français, ouais. Mais du coup, alors, racontez-moi comment vous vous êtes rencontrés. Est-ce que vous connaissiez avant ces clubs?
Tout précisément, c'est trois amis, en fait. On est devenus des amis, et trois amis qui se sont rencontrés au Polyglotte. Donc, comme on peut le dire en anglais, Polyglotte Friends. Et finalement, on se donne rendez-vous lorsqu'il y a cette rencontre, et on échange, on parle de notre vie. On essaye de le faire le plus souvent en anglais, parce que c'est là où on veut s'améliorer le plus.
Ça fait un an. Et on s'est rencontrés ici, et c'est vrai que c'est notre QG ici. Et on est arrivé là, il y a plein de monde, mais on se retrouve quand même tous les trois à parler de nos vies, quoi.
Déjà, là où vient la difficulté, c'est de pouvoir discuter entre Français, qu'on puisse reconnaître nos erreurs et nos fautes, et de pouvoir se corriger entre nous, déjà entre Français, parce qu'on a juste besoin de parler, d'échanger, de noter, comme vous pouvez le constater, nos petites erreurs, les mots qu'on veut apprendre. Aujourd'hui, j'ai appris des mots...
Suburb, par exemple, c'est ça?
Tout simplement, la banlieue. Je ne savais pas comment le dire, et je l'ai appris, ce mot-là, aujourd'hui, tout simplement.
Vous avez aussi appris flou, grippe.
I want to improve my English for myself, yeah. Pour nous personnellement, déjà avant tout, et aussi notre travail nous demande aussi un niveau d'anglais, et il faut qu'on l'améliore, et on est là pour ça.
Quels sont vos métiers?
In English,
oui, allez.
I'm a booking agent, actually. So I booked some flight tickets.
Je sais pas comment on dit ça en français, mais vous êtes chargé des réservations.
Exactly.
Et vous?
And I'm flight attendant. Pour ceux qui parlent pas, qui ne comprennent pas ce mot, je suis PNC, personnel d'avion commercial dans une compagnie aérienne. Et du coup, je suis aussi là pour l'améliorer, tout simplement.
Et vous?
Je suis manager compte clé dans une entreprise qui travaille à l'international.
D'où l'anglais aussi.
Pour l'instant, oui. Et quoi de mieux que de l'apprendre dans un milieu convivial avec des amis qu'on rencontre?
Et vous arrivez à ne pas parler français?
Bah, à cause de vous, oui, on parle français, mais sinon c'est la soirée English pour nous.
Alors on se force à parler anglais entre nous, parce que si moi je connais pas un mot, eh ben Kenny ou Ulrich va peut-être le connaître, et donc ils vont me corriger. Et en fait, on même quand un, par facilité, essaie de parler français, les autres lui disent « try to speak in English ».
Alors, vous voyez, Charlie, vous les avez ramenés à leur langue française, ces trois personnes que vous avez rencontrées donc au Polyglot Club. Et ce qui est étonnant, qu'ils sont toutes les trois françaises et francophones et qui parlent anglais entre elles.
Et vraiment, je les ai regardées un petit peu de loin, à écouter de loin. Ils continuaient, après que je sois partie, à parler anglais entre eux, à se raconter, en fait, leur journée, leur semaine. C'est vraiment devenu un rendez-vous pour eux. Et en fait, ils ont un carnet sur la table sur lequel ils écrivent tous les nouveaux mots qu'ils apprennent au fur et à mesure de leur conversation. Voilà, ils se corrigent les uns les autres. Alors on imagine qu'ils ne progressent peut-être pas forcément aussi vite que pendant un cours, mais néanmoins ça les fait parler et se désinhiber au niveau de cette langue-là.
C'est une combinaison que vous aviez envisagée, Patrick Rousseau, qu'il y a des francophones qui se croisent et qui se mettent à parler une langue qui n'est pas la leur?
Oui, ce sont de très bonnes questions. Là, on touche vraiment le cœur du problème, parce que c'en est un, dans certains pays, et la France en fait partie, il y a pas mal d'idées reçues, notamment sur le fait que les langues étrangères sont faites pour les étrangers. Bon, je pense que chacun verra un petit peu la portée de cette affirmation, mais à commencer par soi-même d'ailleurs. Il faudrait, je pense, se désinhiber, s'ouvrir, et ces langues universelles sont faites pour être parlées par tous et partout. Et là, bon, puisqu'on parle de l'anglais, hein, dans ce cas précis, il faut rappeler quand même que l'anglais est parlé aujourd'hui par 1,4 milliard d'individus partout dans le monde, mais
plus ou moins bien d'ailleurs.
Plus ou moins bien, oui, puisqu'il n'y a que environ 360 millions de natifs, c'est-à-dire de locuteurs de l'anglais, de langue maternelle, c'est-à-dire une minorité, en règle générale. Et alors, ça explique qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui parlent l'anglais ne sont pas des natifs, et donc il faut s'habituer à ce phénomène. Et donc il faudrait pouvoir parler anglais avec un français, avec quelqu'un de sa langue maternelle.
Alors, qui sont les gens qui fréquentent ce Polyglot Club? D'où viennent-ils? Quel âge ont-ils? Et en général, quelle est leur origine linguistique ou sociale, disons?
Oui. Alors, vous allez être déçus en termes de statistiques.
Peut-être pas.
Ou pas. C'est qu'en fait, ce profil-là est très difficile à déterminer, puisqu'ils viennent de tous les horizons socio-économiques, de tous les âges, de tous les niveaux. Et c'est une très bonne chose, hein. Donc on a des lycéens, qui viennent nous voir spontanément. On a des retraités, et puis au milieu, tout le reste. Et c'est une bonne chose, parce que ce qui nous intéresse, c'est bien sûr notre cœur de métier, entre guillemets, ce sont les langues et les cultures, mais en réalité, l'intérêt, vraiment, c'est de rencontrer des gens avec leurs expériences d'apprentissage ou d'enseignement, mais aussi...
Vous voulez dire que la langue, c'est presque un tremplin pour une rencontre qui va au-delà?
Mais oui, c'est bien ça, parce que si on regarde bien de plus près, la langue, c'est un outil de communication, mais qu'est-ce qu'on fait dans cette communication? Donc il faudrait vraiment très vite pouvoir passer à autre chose que la langue ou la culture, hein. Et c'est ce qu'on essaye de faire, nous, justement, dans des lieux publics où les gens viennent de façon désinhibée, dans un lieu convivial où on libère les voix, littéralement. Les gens se sentent vraiment libres de s'exprimer.
Est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont du mal parfois à trouver des sujets de conversation, ou est-ce que ça vient très naturellement? Quand on s'achète un nouveau mode de communication, de temps en temps, on est un peu gêné. Allô, bonjour, tu m'entends? Oui, je t'entends. Et toi, tu m'entends? Oui, je t'entends. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien. Et sorti de là, on dit quoi?
Oui, alors... curieusement, non. Il peut y avoir une petite inhibition pour les nouveaux arrivants, ceux qui ne sont jamais venus et qui se trouvent comme ça face à un groupe, enfin des petits groupes, hein, parce que en général, les groupes sont de taille réduite, hein, 2, 3, 4 maximum. Et donc, ils savent pas trop comment s'adapter. Mais ils sont très vite adoptés et ils font partie hein, de ces groupes. Et à ce moment-là, après, les paroles sont libérées, les voix.
Et puis le choix de la langue est aussi le premier sujet de conversation. Quelle langue est-ce que tu veux parler? Voilà, on rit de ça, on rit de ses maladresses aussi, de son accent français, si on parle anglais. Il y a des premiers sujets de conversation qui naissent, et puis ensuite, on peut parler de choses un peu plus profondes.
C'est bien, effectivement. Et autour d'un verre, pas forcément alcoolisé, hein, mais c'est un lieu qui se prête alors à l'ouverture et à l'erreur, à la faute. Et là, c'est bien que l'occasion m'en soit donnée pour rappeler l'importance de la faute. Il faut, pour progresser, pour apprendre quoi que ce soit, il faut se tromper. Et je pense que l'erreur n'est pas suffisamment valorisée dans notre système éducatif. Enfin, c'est pas le seul, mais voilà, on gagnerait à
les gens
moins
se corrigent beaucoup les uns les autres spontanément. Parce que parfois, pour vraiment parler, il faut accepter que l'autre fasse des erreurs sans qu'on le reprenne, en lui disant, on dit pas « si j'aurais un joli pull », on dit « si j'avais ».
Oui, c'est une très bonne question. Alors malheureusement, je n'ai pas de statistiques, il faudrait voir, mais ce qu'on appelle hein, l'évaluation de pair, hein, quand deux participants se corrigent les uns les autres, ou même si c'est toujours le même qui corrige les autres, hein, s'il en a les moyens linguistiques, c'est pas une mauvaise chose. Je ne suis pas certain que ce soit le meilleur moment pour apprendre et donc pour corriger. Je pense que le plus important dans ces cafés-langues, dans ce polyglotte club, c'est de libérer les voix, encore une fois, de donner la parole à chacun et l'opportunité de pratiquer, la mise en pratique.
Alors, pour terminer, vous allez nous dire où ça se passe, où ça, on a parlé du quartier d'Enfer Rochereau, du sud de Paris, mais c'est vague. Alors, l'adresse précise, Patrick Rousseau, si on veut aller au Polyglotte Club.
Oui, alors encore plus vague, le Polyglotte Club, c'est international, hein, c'est un site internet, 750 000 membres, mais en France et à Paris, notamment, des rencontres du lundi au dimanche, au numéro 58 boulevard Saint-Jacques, d'Enfer Rochereau.
Eh bien, nous y serons très prochainement. Merci beaucoup Patrick Rousseau, merci Charlie Dupiau. Et maintenant c'est ma parole.
Ma parole, ça t'apprendra.
Déborah Gros, bonjour.
Bonjour Yvan.
Vous qui venez tout droit du service langue française de RFI, vous allez aujourd'hui nous parler de théâtre. Et de théâtre, peut-être pas pédagogique, mais de théâtre pour apprendre le français.
Et oui, on a fait une place au théâtre pour la première fois, puisqu'on a l'habitude d'utiliser des reportages, des émissions. Et là, on est allé chercher dans une émission qui s'appelle « ça va le monde », une émission qui va au Festival de théâtre d'Avignon, au sud de la France.
Avant d'être une émission, c'est une série de lecture, voilà, en fait, organisée dans le cadre du IN d'Avignon par Pascal Paradou. Et qui présente quoi, Déborah ?
Eh bien, qui présente des textes d'auteurs et d'auteurs contemporains du monde francophone. Et on est allé chercher avec notre rédacteur spécialiste de théâtre à RFI Savoir un extrait d'un texte qui s'appelle « Le ventre de l'Atlantique ».
Mon frère galopait vers ses rêves, de plus en plus tourné vers la France. Après la colonisation historiquement reconnue, règne maintenant une sorte de colonisation mentale. Madiké vénérait la France. Tous ceux qui occupaient les postes importants au pays avaient étudié en France. Pour gagner les élections, le père de la nation gagnait d'abord la France. Les quelques joueurs sénégalais riches et célèbres jouaient en France.
Un extrait donc de ce texte de Fatou Diome qui fut d'abord un roman avant d'être adapté au théâtre.
Exactement. Et l'histoire, eh bien, elle tourne autour de deux personnages. Il y a une sœur, Sally, qui vit en France, qu'on vient d'entendre, et son frère, Madiké, qui lui est resté au pays, alors on imagine que c'est le Sénégal, et qui rêve de rejoindre sa sœur et de devenir footballeur. Donc toute la pièce tourne autour de cet imaginaire, ce miroir aux alouettes de l'immigration. Donc ce piège, en quelque sorte, qui est comment on se représente la France depuis l'étranger.
Ce roman est donc devenu un texte théâtral. Il a été joué à Avignon. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider soit les professeurs à enseigner le français, soit les élèves à l'apprendre ?
Eh bien, on a sollicité notre rédacteur spécialiste de théâtre qui s'appelle Adrien Payet, qui est, en plus d'être professeur de FLE, il est aussi comédien et metteur en scène. Et puis, il a publié des ouvrages, il fait des formations autour du théâtre en classe de langue. Et donc, il est allé, il a choisi quelques extraits particulièrement intéressants de cette pièce, des dialogues, des monologues, et il en a fait, eh bien, des quiz, des fiches pédagogiques, et surtout une fiche où il y a plein de conseils pour, eh bien, passer de l'écoute de cette pièce à la pratique théâtrale. Et d'ailleurs, on l'a interrogé, et Adrien Payet nous explique l'intérêt du théâtre en classe.
Bien, pour moi, l'intérêt du théâtre, c'est d'appréhender la langue que l'on apprend d'une manière sensible. L'apprenant ne se limite plus à recevoir une information en classe et à l'assimiler. Il est en position d'interpréter la langue et donc d'agir sur elle par le corps, par la voix, etc. En quelque sorte, le théâtre l'aide à s'approprier la langue étrangère. Et l'intérêt du théâtre à la radio, et donc de l'émission « ça va le monde », sur laquelle nous travaillons sur RFI Savoir, eh bien, c'est d'éveiller l'imaginaire. Car ce n'est pas la même chose de voir une pièce de théâtre et de l'entendre. Les auditeurs vont se faire des images mentales, à partir de la voix, des sons extérieurs, des intonations. Et ensuite, dans les fiches pédagogiques, eh bien, nous proposons des activités pour bien comprendre l'extrait, puis en classe, s'entraîner à interpréter le texte, et enfin le jouer. Donc c'est une approche de l'audio vers la scène, en passant par l'imaginaire, qui me semble vraiment tout à fait intéressante.
Alors, en écoutant Adrien Payet, on peut avoir l'impression que tous ces instruments pédagogiques sont destinés à des gens qui maîtrisent déjà bien le français. Est-ce que c'est le cas, Déborah ? À quel type d'apprenant est-ce qu'on s'adresse avec tout ça ?
Eh bien, on s'adresse à des jeunes, des adolescents, des adultes et peut-être pas le niveau débutant, puisqu'il faut déjà avoir une petite expérience de la langue, mais en tout cas au niveau intermédiaire, on peut tout à fait avoir accès à ces ressources, puisqu'en fait, on va d'abord prêter l'oreille aux intonations, à tout ce que dit la voix en dehors du message. Et évidemment, dans le cadre du théâtre, eh bien, l'acteur va utiliser sa voix et va transmettre beaucoup de choses au-delà des mots par sa voix. Donc, tous les exercices également d'improvisation, de création de dialogue sont accessibles à un niveau intermédiaire.
Eh bien, en route vers le théâtre, et merci pour tout ce que vous nous proposez, ma chère Déborah, avec le service langue française de RFI. Merci donc d'avoir été dans La Langue des Mots, une émission proposée par le réseau Canopé et par RFI. Merci à Véronique Durand, Déborah Gros, Charlie Dupiot, que d'ailleurs nous allons retrouver demain, Lucie Bouteloup, Yvan Hamar.